fréquence protestante. Le magazine anglican. Laurence Moachon.
Bonjour à tous. En ce début d'année, le magazine anglican consacre cette première émission aux réfugiés. Jésus était un réfugié. Il a fui avec ses parents en Égypte. C'est ce qu'a déclaré l'archevêque de Canterbury dans son message du Nouvel An. Cela m'a immédiatement fait penser à l'église copte à Bouserga, Saint-Serge du Caire. La tradition veut qu'elle ait été construite au-dessus de l'abri dans laquelle la Sainte Famille aurait trouvé refuge durant la fuite en Égypte. Beaucoup de réfugiés aujourd'hui viennent du Moyen-Orient depuis la guerre en Irak et en Syrie et les exactions du groupe État islamique. La première partie de l'émission sera consacrée aux réfugiés irakiens et syriens et plus largement aux chrétiens d'Orient et à leur situation par le passé et aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir les trois fondateurs de l'association d'entraide aux minorités d'Orient, l'AEMO, le président Monseigneur Pierre Wallon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque en Europe de l'église épiscopale anglicane et un habitué du magazine anglican.
Avec plaisir.
Le vice-président de l'AEMO, Jean-Michel Cadiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain, vous avez travaillé à Témoignages chrétiens et à l'AFP. Vous publiez « Petit lexique pour les chrétiens d'Orient ». Et le secrétaire général de l'AEMO, Elie Chiacco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes irakien, consultant pour l'Irak. Après vous avoir entendu tous les trois, nous parlerons dans la deuxième partie de l'émission de l'aide aux réfugiés en Europe continentale à travers six exemples concrets d'actions menées par les églises épiscopales en Europe. Depuis septembre 2015 et l'arrivée massive des réfugiés en Europe, les leaders de la communion anglicane ont appelé à l'accueil des réfugiés, se référant à la Bible et au ministère de Jésus, et aussi en rappelant la tradition d'accueil des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos trois invités, fondateurs de l'association d'entraide aux minorités d'Orient, les avaient devancés, puisqu'il y a 8 ans, ils créaient leur association. Mais comment vous êtes-vous rencontrés, Monseigneur Wallon ?
Eh bien, d'abord, Jean-Michel Cadiot est mon ami depuis l'enfance, enfin, c'est mon plus vieil ami. Et donc, on discutait de la situation juste avant la guerre de 2003. Et Jean-Michel m'a dit, mais tu devrais y aller. Et ça s'est fait par le biais d'une invitation du patriarche de Babylone, le chef de l'église chaldéenne. Et j'ai dit, mais il nous faut un guide. Je ne connais pas du tout l'Irak, je ne parle pas l'arabe. Et Jean-Michel m'a dit, mais j'ai un très bon ami qui s'appelle Elie Chiacco. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés en Irak, en fait.
Et vous, Jean-Michel Cadiot, vous avez été directeur de l'AFP à Téhéran, puis à Bagdad. Est-ce à cette époque que vous avez fait la connaissance d'Elie Chiacco ?
Un petit peu après, c'est plutôt au début des années 2000, j'avais entendu parler de lui, mais je l'ai connu peu avant notre voyage.
Elie Chiacco, vous êtes irakien, mais vous vivez aujourd'hui en France. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez quitté Bagdad et puis à votre suite, vos frères et sœurs ?
J'ai quitté l'Irak en 1973 pour venir à Paris pour faire des études. Et j'étais un des premiers Irakiens arrivés en France à l'époque, parce que les Irakiens, normalement, partaient aux États-Unis ou à Londres pour étudier. Voilà. Et depuis cette date-là, je vis à Paris et j'ai réussi à faire venir ma famille en 2008, dans les premières vagues de réfugiés qui ont quitté l'Irak.
Et vous et votre famille faites partie de la communauté chaldéenne ici à Paris. Votre église, Notre-Dame de Chaldée, se trouve dans le 18e arrondissement. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'église chaldéenne ? Qui veut répondre ?
Normalement, Jean-Michel Cadieux aussi, que connaît l'histoire de notre église. Mais je voulais seulement vous dire que nous sommes une partie de l'église d'Orient. Et nous sommes des Chaldéens catholiques depuis 1553. Si Jean-Michel ne me contredit pas, voilà pour la date. Et nous avons un patriarche qui est chef de notre église. Il s'appelle Sa Béatitude Louis Sacco. Il est basé à Bagdad. Et son titre est patriarche de Babylone pour les Chaldéens. Et nous sommes une église qui compte à peu près 1 200 000 fidèles dans le monde aujourd'hui.
Merci, Jean-Michel.
Oui, l'église chaldéenne, c'est, disons, la branche catholique de l'église de l'Orient ou de l'église de Perse, qui est celle qui est née dans l'Empire perse et non dans l'Empire romain, qui parlait au départ donc l'araméen et qui s'est séparé des autres. Mais les catholiques, eux, sont venus avec l'église catholique récemment. Voilà, mais il reste une branche qui n'est pas reliée à Rome.
L'araméen qui est la langue de Jésus.
La langue du Christ, oui.
Alors, Jean-Michel, vous connaissez bien les chrétiens d'Orient. Vous avez partagé cette connaissance dans un ouvrage intitulé « Les chrétiens d'Orient, vitalité, souffrance, avenir » et plus récemment dans un petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient qui a paru fin 2015 aux éditions Éric Ponnier. On associe souvent le christianisme à une religion occidentale. Qu'en est-il exactement ?
Ben c'est assez absurde puisque l'Église est née, le christianisme est né en Orient. Tout Jésus et tous ses apôtres étaient des orientaux. Et la première Église a été fondée à Antioche, qui est dans la Turquie actuelle, mais qui était alors la Syrie. Et les chrétiens d'Orient donc ont vécu... ont évangélisé leur terre et puis se sont portés en Occident après, Pierre et Paul. Mais ceux qu'on appelle donc les chrétiens d'Orient, ce sont ceux qui sont restés en Orient. Alors, l'Église, en gros, s'est constituée autour du Concile de Nicée en 325. Là, ça fait le credo, qui est toujours à peu près celui que tous les chrétiens, catholiques, anglicans, protestants... Et les branches orientales sont multiples, alors c'est très difficile de dire tout, mais disons que en 325, tout le monde est uni, en 431, il y a Éphèse, et là, les Chaldéens, enfin les Nestoriens pour l'époque, refusent que Marie soit la mère de Dieu, bon c'est un schisme si l'on veut. 451, il y a le concile de Chalcédoine, où là, il y a un nouveau schisme, ce sont les monophysites, enfin, on les dit comme tels, c'est-à-dire aujourd'hui les Coptes, la plupart des Coptes, ce qu'on appelle les Syriens ou Syriaques ou Jacobites, qui ont aussi une branche catholique, et qui ont aussi une branche anglicane en Inde, parce que les Syriens, l'église de Mar Thomas en Inde est très importante et fait partie de la communion anglicane. Et il y a aussi les Arméniens qui sont également monophysites. Bon, alors jusqu'en 1054, disons, Rome et Byzance étaient restés unis. Puis en 1054, il y a le grand schisme entre catholiques et orthodoxes. Et en fait, la situation s'est un petit peu figée, malgré des rapprochements un peu partout. Au total, j'ai compté que ça fait à peu près 100 millions de personnes, dont la majorité vit maintenant, malheureusement, en diaspora.
Alors, vous avez parlé de monophysite, vous pouvez nous donner un petit peu des explications?
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une nature pour eux dans le Christ, ce qu'ils contestent, mais c'est un débat. Disons, les catholiques et les orthodoxes ont refusé cette notion, disons qu'il y a une nature divine, une nature humaine dans le Christ. Bon, mais ça, c'était beaucoup une question, en fait, de politique d'abord, et puis une question de langue, parce qu'il y avait le grec, il y avait le latin, le grec, enfin il y avait des confusions générales, mais d'une certaine façon, toutes ces questions dogmatiques sont tranchées. Dans toutes les églises, on trouvait un point commun, et on ne parle plus d'hérésie du tout. On parle d'œcuménisme, heureusement, même si ça ne met pas en place complètement.
Mais pour qu'on comprenne bien cette indifférence sur la nature du Christ, c'est ça?
Oui, tout à fait. Voilà, que les Coptes maintiennent, et les Syriens orthodoxes et les Arméniens.
D'accord. Alors aujourd'hui, la situation des chrétiens au Moyen-Orient est devenue dramatique. Attentats, persécutions, massacres. Donc il y a sans doute beaucoup moins de chrétiens au Moyen-Orient. Quelle est la situation actuelle et dans les différents pays ?
Il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'en Occident. Il faut compter qu'au Xe siècle, par exemple, les Nestoriens étaient plus nombreux que les... Ils atteignaient jusqu'en Inde, c'est l'Église en Chine, au Japon même, dit-on. Donc, la situation, au fil des siècles, s'est affaiblie sous les empires musulmans, même s'il y avait de bonnes relations tout de même. Il y a eu des persécutions, il y en a eu sous les Perses aussi. Et puis, à la fin de l'Empire ottoman, il y a eu ce terrible génocide contre les Arméniens et contre tous les chrétiens, d'ailleurs, y compris les protestants, y compris les catholiques, y compris les anglicans. Après, il y a eu d'autres événements dramatiques. Il y a eu l'exode des Palestiniens, qui sont plus... Les Grecs catholiques, par exemple, les Melkites, sont beaucoup plus nombreux en Amérique qu'au Moyen-Orient. Et puis voilà, depuis 2 ans, cette histoire épouvantable, nous allons parler, qu'est le fait que l'État islamique, qui est une émanation d'Al-Qaïda, a conquis des territoires importants en Syrie et en Irak, où les chrétiens sont complètement persécutés, sont plus que persécutés, sont interdits, sont tués ou sont contraints à l'exil. Et ça, c'est la situation dramatique que nous connaissons actuellement.
Et pour l'Irak, plus particulièrement, Elish, vous voulez dire quelque chose sur ce qui se passe actuellement en Irak ?
En Irak, il y avait 1 200 000 chrétiens en 2003. Aujourd'hui, il reste à peu près 350 000 seulement. La majorité, ils ont préféré quitter l'Irak. Le premier vague, c'était pendant l'embargo imposé à l'Irak par les États-Unis. Et deuxième vague, c'est la guerre en 2003, l'occupation de l'Irak par les armées occidentaux. Et troisième vague, c'est dernièrement quand Daesh a pris le contrôle de la vallée de Ninive. Nous avons eu 120 000 chrétiens irakiens qui ont quitté leur village. Ils ont préféré se réfugier dans les camps de réfugiés au Kurdistan d'Irak que de se convertir à l'islam. Ils ont tout abandonné, leur maison, leur travail, et ils sont aujourd'hui réfugiés dans les camps au Kurdistan irakien.
Et pour ceux qui viennent en France, donc, c'est votre association qui s'occupe de les accueillir. Et donc, nous allons parler de cette association d'entraide aux minorités d'Orient. Quelle est sa vocation, Monseigneur Wallon ?
Eh bien, le titre, je crois, donne le ton. C'est pour aider des personnes, normalement de minorités religieuses, qui sont persécutées ou menacées de mort, pour justement des raisons de confession. Donc ce sont des candidats idoines pour l'asile politique en France, suivant la Convention de Genève. Et nous avons donc commencé l'association pour aider le gouvernement français. En 2007, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, est allé à Bagdad, et il a dit que la France pourrait recevoir 500 chrétiens. Alors ça, je dois dire, ça peut affoler les gens parce que la France est un État laïque. On ne peut pas distinguer entre les chrétiens et les autres en tant que l'asile politique. Donc notre association est laïque et humanitaire et nous avons donc pu, comment dirais-je, guionner vers des candidats en Irak, les autorités françaises. Et nous avons pu faire sortir donc ces personnes. À l'époque, c'était 500, puis 1000, puis 1500. Aujourd'hui, c'est 3000.
Alors concrètement, comment s'organise l'entraide de l'AEMO aux réfugiés, Elish, sur le terrain ? Comment ça se passe ? Que font vos bénévoles ?
Nous avons des listes de demandes qui arrivent d'Irak directement, parce que nous avons des contacts avec des personnes en Irak, que ce soit à l'église ou des laïcs là-bas. Et nous choisissons les cas le plus difficile pour aider, voilà. Par exemple, nous préférons que ce soit une femme avec des enfants qui ont perdu leur père ou des personnes malades, voilà. Nous essayons de les aider.
Oui, quand vous dites vous préférez, c'est parce que en fait ils n'ont pas d'autres recours que vous.
Voilà, les personnes les plus vulnérables, voilà, nous essayons de les aider. Sinon, nous avons aujourd'hui une liste d'attente de centaines de familles on n'a pas encore trouvé des familles d'accueil. Parce que pour recevoir une famille irakienne ici et obtenir l'asile, aujourd'hui, il y a une procédure spécifique qui est décidée par le gouvernement français pour donner l'asile aux chrétiens d'Irak et de Syrie. Et une des conditions pour délivrer le visa, il faut avoir une famille d'accueil. Notre association est très bien placée pour trouver des familles d'accueil pour les familles chrétiennes d'Irak.
Et ce sont des familles d'accueil françaises ou irakiennes?
Irakiennes. Oui. Et maintenant, on a beaucoup de familles françaises qui s'adressent à nous. Nous avons déjà placé peut-être une centaine de familles irakiennes chez des familles françaises. Et nous avons à peu près une cinquantaine de dossiers en cours. Et nous avons beaucoup de demandes et c'est pour ça que peut-être on va utiliser votre émission pour lancer un appel aux auditeurs de nous aider à trouver des familles d'accueil pour accueillir les chrétiens persécutés là-bas qui ont tout perdu pour leur foi.
Alors, puisque vous lancez cet appel, si vous êtes entendu, que faut-il faire si on a la possibilité d'accueillir une famille? Et ça représente quoi, accueillir une famille? Il faut avoir des locaux?
C'est-à-dire héberger la famille ici en France pour une période à peu près 4 à 6 mois. Le temps que la famille obtienne les droits d'asile et les indemnités des réfugiés. Et normalement, ça prend 4 à 6 mois.
Et donc, si quelqu'un veut accueillir une famille, il faut s'adresser
à nous. Nous avons un site internet, on peut le trouver facilement, Association d'entraide aux minorités d'Orient.
Oui.
C'est AEMO-France. On peut trouver facilement les contacts avec nous. Et à la fin de l'émission, si vous voulez, je donnerai un numéro de téléphone aussi.
D'accord, très bien. Et donc, comment ça se passe quand ils arrivent? Vous les accueillez à l'aéroport?
Bien sûr, avant de les accueillir, on prépare d'abord une équipe technique pour les suivre ici. Parce qu'on ne peut pas faire venir une famille irakienne et la donner à une famille française. On leur dit, débrouillez-vous. Non, on crée une comité technique d'accueil qui est composée normalement d'une vingtaine de personnes pour servir une seule famille. Parce qu'une seule famille ne peut pas faire tous les devoirs. Il y a le voiturage, il y a la traduction, il y a l'accompagnement social, administratif. Voilà. Et nous-mêmes, on reste en contact avec la famille jusqu'à que la famille irakienne ou syrienne obtienne tous les droits de réfugiés, qu'elle soit indépendante. On ne laisse pas les familles tout seules.
Et quand vous dites une famille, en général, c'est combien de personnes?
Le moyen, c'est 4-5 personnes, une famille irakienne, oui. Nous avons même eu des familles qui sont arrivées, de 12 personnes qui ont été accueillies. Et ça a très bien marché, 12 personnes accueillies.
Alors, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est quand j'entends parler de 10-12 personnes, c'est en région parisienne ou c'est...
Non, la plupart c'est en province.
D'accord.
Malheureusement, à Paris, les logements sont très serrés. Nous avons eu beaucoup de propositions à Paris pour des petits logements. Et actuellement, nous avons des familles irakiennes dans la région parisienne qui ont obtenu l'asile, et d'autres familles qui attendent des familles irakiennes.
Et en France, dans les autres régions, c'est dans quelle région, par exemple?
Nous avons partout en France, à Toulouse, à Toulon, en Bretagne, à Strasbourg, à Tours,
à Nice,
Marseille, Monaco, partout en France, on a des familles irakiennes, avec qui on est en contact, bien sûr, pour les aider et les suivre jusqu'à l'intégration complète.
Et donc c'est vous qui organisez leur acheminement, si je puis dire?
Oui, oui. Mais c'est les autorités françaises aussi qui font leur travail. C'est un bureau qui s'appelle OFI, Office français d'intégration et d'immigration, qui prend en charge normalement les familles dès leurs arrivées en France. Et nous, on travaille avec l'OFI pour suivre les familles, pour l'alphabétisation, l'intégration jusqu'à qu'ils trouvent des postes pour travailler.
Alors, je crois qu'il y a un troisième volet dans ce que fait l'AEMO, c'est la sensibilisation des autorités et des gouvernements. Donc, qui veut répondre à cette question?
Eh bien, je dois dire qu'au début, comme j'ai dit, c'était déjà le but de la création de l'association. C'était pour aider le gouvernement à comprendre exactement ce qu'il fallait faire pour devenir France terre d'asile pour les Irakiens et maintenant pour les Syriens. Le travail de sensibilisation, c'était surtout, avec du personnel des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur au début. Et puis ensuite, après un certain bout de temps, on était beaucoup mieux connus et ça a commencé la sensibilisation de la population française tout entière.
Merci, nous allons faire une petite pause musicale et je vous propose d'écouter un chant qu'Elish a choisi pour nous. Vous pouvez nous dire ce dont il s'agit ?
C'est un chant pour Noël, ça s'appelle « Gloire à Dieu, Fils et Saint-Esprit, Roi, Fils des Rois ».
C'était un très bel air de Noël en chaldéen qu'Elish Yacko avait choisi pour nous. À Paris, l'action de l'AEMO a été relayée concrètement par la cathédrale épiscopale de Paris depuis 2 ans. Des bénévoles se rendent le samedi matin à Notre-Dame de Chaldée pour des cours de conversation française à des réfugiés d'Irak et d'autres pays du Moyen-Orient. L'une de ces bénévoles, Sylvie Beauté-Témé, nous en parle.
Ça a commencé à l'automne 2014. Ce qui était intéressant dans ces cours, c'est qu'on essayait d'avoir les fondamentaux de la langue française, au travers de la grammaire, la conjugaison, la prononciation. Je me souviens avoir fait un atelier sur la prononciation et j'ai découvert qu'il y avait des sons qui étaient difficiles à prononcer pour eux. Mais surtout, on abordait des sujets de la vie courante, la société française, la composition de l'Assemblée nationale, le relationnel d'une famille française. Ça, moi, je les sentais toujours très, 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 très curieux. Et là, l'intérêt était majeur. Donc, je trouve que, au-delà des cours de conversation française, c'était d'abord cette capacité à venir facilement vers nous pour nous poser des questions et puis cette véritable volonté de créer du lien, de rentrer en relation avec nous. Et puis donc on a repris à l'automne 2015, cette fois-ci avec une quinzaine, entre guillemets, d'animateurs. Alors notamment au cours de ces sessions, on parlait effectivement de l'activité culturelle qui pouvait y avoir à Paris, puisqu'il faut profiter de cet avantage qu'ils ont, c'est d'être dans la région parisienne. Et à cette occasion, je vais vous relater une anecdote. Avec Anne, une des animatrices, on a échangé sur une très belle exposition qu'il y a eu à la Bibliothèque nationale, qui était relative au trésor de l'Irak. Et avec Anne, donc, j'ai découvert qu'elle travaillait pour la Bibliothèque nationale et que son responsable portait cette exposition. Donc, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas faire une visite avant ou pendant l'exposition ? Donc Anne s'est activée, elle a réussi à leur prévoir une visite en avant-première de cette superbe exposition. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est 2 choses formidables. Un, du groupe, qui a découvert que c'était quand même une exposition majeure. Ils ont rencontré des spécialistes qui étaient admiratifs d'avoir la possibilité de présenter leur travail à des Irakiens, et en particulier des gens qui parlaient l'araméen et qui ont pu, en séance, leur décoder des textes qui étaient un petit peu encore opaques pour eux. Donc c'était inattendu, hein, providentiel, mais un moment particulièrement touchant.
Sylvie a fait allusion à l'aspect lien social de cette aide aux réfugiés. Est-ce que ça vous paraît un élément important ?
Bien sûr, les réfugiés, ils ont besoin d'avoir des relations avec la société ici. Et grâce à la cathédrale, on a réussi à avoir ce contact et échange culturel entre les élèves et les formateurs de la cathédrale.
Vous êtes à l'écoute du magazine anglican sur Fréquence Protestante. Notre émission est consacrée aux réfugiés. Et en commençant, j'ai parlé du message du Nouvel An de l'archevêque de Canterbury. Dans ce message, Justin Welby insistait sur la tradition ancienne pour les anglicans d'accueillir des réfugiés. Il rappelait qu'au XVIe siècle, une chapelle de la cathédrale de Canterbury avait été réservée aux Huguenots qui fuyaient la France. Aujourd'hui encore, on peut voir le drapeau français accroché au mur de la chapelle. En Europe continentale, l'accueil des réfugiés dans les paroisses épiscopales a commencé bien avant leur arrivée massive à la rentrée de 2015. À Munich, l'église de l'Ascension a participé, il y a 25 ans, avec les églises catholiques et luthériennes locales, à la création d'un centre pour les demandeurs d'asile. Avec l'afflux des réfugiés à la rentrée 2015, le recteur de l'église de l'Ascension, Steve Smith, a pu à travers ce centre entrer en contact avec le camp de réfugiés qui est situé à proximité et installé dans une ancienne caserne de l'armée américaine. Rémi Bettemont, paroissia de l'église de l'Ascension, présente comment s'est organisée l'aide aux réfugiés ainsi que deux initiatives originales de sa paroisse.
La paroisse de Munich a toujours été impliquée, moi, depuis des années, dans l'aide aux réfugiés, puisqu'il y a toujours eu des réfugiés à Munich. Simplement, depuis l'afflux exceptionnel qui chiffrait vraiment par milliers tous les jours de migrants qui arrivaient donc à partir de fin août dernier, à septembre. Là, donc, des nouvelles actions ont été lancées. Alors, collecte de vêtements, collecte de produits cosmétiques au départ, et puis, ensuite, des actions plus relationnelles qui ont été mises en place. En partenariat avec l'église luthérienne dans laquelle on a nos cultes, le jeudi après-midi, dans les locaux de l'église, donc les réfugiés sont invités à venir. Et il y a des jeux pour les enfants en particulier, il y a des cours d'allemand qui sont donnés, et tout simplement de conversation. Également, la paroisse a demandé des fonds à Episcopal Relief and Development pour construire un abri à bicyclette, puisque les réfugiés se voient prêter des vélos pour se déplacer, que de façon à ce que les vélos restent en bon état. Et puis également, là, la paroisse a fait une nouvelle demande de fonds à Episcopal Relief and Development pour acheter des instruments de musique, en particulier des percussions, pour lancer un programme musical dans le camp de réfugiés qui est à côté de l'église. Et donc aussi une façon d'accueillir, d'être auprès des gens, et en particulier des plus jeunes. Episcopal Relief and Development, c'est le bras caritatif de l'église épiscopale, qui donc est actif vraiment dans le monde entier.
Chaque dimanche aussi, l'église de l'Ascension accueille à son service des réfugiés de confession musulmane. Le service est bien sûr très différent de ceux auxquels ils étaient habitués à la mosquée de leur pays d'origine, mais ils apprécient l'accueil que leur réserve la communauté. Cela nous fait prendre conscience que les chrétiens ne sont pas les seules victimes des extrémistes, n'est-ce pas Jean-Michel ?
Absolument. Ce qui s'est passé depuis deux ans, c'est-à-dire cette prise de contrôle d'une grande partie de l'Irak et de la Syrie par l'État islamique, ça concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne d'autres minorités, en particulier les yézidis, qui sont très très nombreux en Irak et qui ont peut-être autant souffert, sinon plus, que les chrétiens, puisqu'ils n'ont pas pu partir pour la plupart. Ils étaient dans des montagnes, ils n'ont pas pu, ils ont été persécutés, les femmes ont été réduites en esclavage, ont été vendues sur les marchés. Et certains ont pu venir en France, mais moins. Et puis il y a aussi les musulmans chiites dans cette région-là, qui sont complètement exclus. Il y a d'autres communautés, comme les turkmènes. Enfin, il n'y a pas que les chrétiens, effectivement. Et dans ce que disait Elish sur la vallée de Ninive, ce terrible exode qui a eu lieu en août 2014, ce qui est assez beau, bouleversant, c'est que tous ceux qui sont partis, les chrétiens, les yézidis, les turkmènes, les musulmans chiites, sont partis ensemble, finalement, très solidairement. Et c'est un aspect aussi de cet exode, cette fraternité qu'il y a eu dans la souffrance.
Alors, pour donner un autre exemple qui illustre l'accueil des réfugiés par les épiscopaliens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui montre donc que cet accueil s'est organisé sur le long terme. C'est à Rome, à l'église épiscopale anglicane Saint-Paul, entre les murs, à ne pas confondre avec la basilique catholique Saint-Paul hors les murs, que nous allons nous rendre au centre d'accueil de jour pour les réfugiés. Je vous propose d'écouter ce que dit le recteur actuel de l'église Saint-Paul de Rome sur la vocation de ce centre.
Ma vision n'est pas juste de nourrir ces gens ou de s'en occuper, mais qu'ils se considèrent comme des citoyens d'un pays plus grand que l'Italie. Je crois qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu et que tous ces réfugiés, quel que soit leur pays d'origine ou leur statut administratif, sont membres de ce royaume.
Alors concrètement, qu'est-ce que ce centre offre à ces citoyens du royaume de Dieu, Monseigneur Wallon ?
Alors d'abord, il faut comprendre que c'est le seul centre pour les réfugiés ouvert pendant la journée, dans toute la ville de Rome. Donc ils accueillent environ 200-220 personnes tous les jours, et ces personnes reçoivent donc un repas, un espace pour pouvoir discuter, jouer, apprendre l'italien, apprendre à utiliser les ordinateurs, et aussi avoir une aide technique légale pour leur demande d'asile. Donc c'est vraiment une équipe extrêmement bien formée. Il y a une coordination très étroite avec le Bureau des réfugiés du Vatican. Donc c'est aussi un bel exemple d'action œcuménique en faveur de ces gens qui viennent de chaque pays où se trouve un conflit. C'est-à-dire, là où il y a un conflit, nos réfugiés arrivent à Rome. Aujourd'hui, ce sont des Maliens, des Afghans. Autrefois, c'était des gens de l'Arménie. Ça dépend, n'est-ce pas, du conflit du jour.
Oui, il y a une évolution donc depuis la création en 1995,
tout à fait.
Selon les zones de conflit.
Exactement, malheureusement.
Nous allons, sur une note plus gaie, retrouver un beau chant en chaldéen. Cette fois-ci, c'est une prière que vous avez choisie pour nous, Elish.
Oui, c'est une prière qui est dite à la messe à chaque fois. C'est « Dieu, nous remercions ». Le Jésus-Christ aussi, notre Sauveur et notre Rédempteur.
C'était toi. Ce slogan en forme d'appel était inscrit sur une banderole déployée sur une grille d'un camp de réfugiés près de Bruxelles. Il a été repris par le recteur de l'église épiscopale de Tous les Saints de Waterloo, la révérende Sunny Alanan. Elle explique qu'elle en est venue à se poser la question « Et si c'était moi ?» en rencontrant parmi ces réfugiés des médecins, juristes, professeurs, commerçants qui avaient dû fuir leur pays pour rester en vie. Ce slogan, « Et si c'était toi ?», a été repris par le service d'information de l'Église épiscopale, qui a publié une série d'articles présentant l'action des bénévoles dans les différentes paroisses épiscopales d'Europe. L'objectif était de sensibiliser les épiscopaliens à ne pas avoir peur de ces réfugiés, à l'allure et aux coutumes différentes des leurs. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mark Barwick, prêtre associé à l'église épiscopale de Waterloo, il nous explique comment sa paroisse s'est interrogée pour répondre le plus précisément possible aux besoins des réfugiés en Belgique.
Dès le départ, l'église de All Saints à Waterloo s'est engagée à soutenir les efforts pour les réfugiés à Bruxelles, parce qu'on n'est pas très loin de Bruxelles. Il y avait une petite équipe, grande collaboration avec les différentes églises et d'autres communautés aussi, des musulmans, des chrétiens, des laïcs, quoi, qui ont travaillé ensemble. On s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus concrète et plus réaliste pour nous, parce qu'il y avait une grande réponse de la part des églises. Il y a des gens qui veulent donner des vêtements, qui veulent donner des meubles, qui veulent donner n'importe quoi. Et quelquefois, c'est pas très réaliste. Ça répond pas vraiment aux besoins réels des réfugiés. Et le projet que nous avons actuellement, c'est de faire une collecte de fruits tous les dimanches à les paroissiens à apporter fruits à l'église. Parce que, en fait, il y avait pas mal de nourriture et de repas qui sont préparés, mais ce qui manquait chez les réfugiés revenant des pays en Moyen-Orient, par exemple, c'est d'avoir des fruits frais. Donc, on a une collecte de fruits tous les dimanches. On a commencé par des pommes, mais on a tout de suite compris que les pommes ne sont pas vraiment dans le régime des gens qui venaient de Syrie, par exemple. Mais des fruits comme les oranges et des nectarines, des melons, on a collectionné et puis on a apporté aux aides réfugiés. Et c'était bien apprécié par les réfugiés.
C'était Marc Parwick par téléphone de Waterloo, vous l'aurez compris, excusez-nous, le son n'était pas très bon. C'est également avec des fruits que deux épiscopaliens sont venus en aide aux réfugiés à Budapest. Laura et Arthur Reynolds ont une ferme dans le sud-ouest de la Hongrie. Dès l'arrivée massive des migrants l'été dernier, ils ont chargé leur voiture de pommes et sont allés les distribuer à la gare de Budapest. Laura, comme la révérende Sonny de Waterloo, déclare s'être reconnue dans ces réfugiés. Leur action a vite été relayée par la paroisse anglicane de Budapest. Les paroissiens se sont immédiatement mobilisés pour apporter vêtements, nourriture et eau. Aujourd'hui, dans notre émission, nous nous focalisons sur les églises épiscopales en Europe, mais il est bien entendu qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites dans le diocèse en Europe de l'Église d'Angleterre. Cela mériterait une autre émission. Début septembre, la Hongrie a décidé de fermer ses frontières et d'expulser les migrants de la gare de Budapest. L'Autriche les a accueillis dans un camp proche de la frontière de Nickelsdorf. Laura et Arthur ont alors fait des allers-retours en voiture pour livrer quelques 400 kilos de pommes au centre de la Croix-Rouge. J'ai gardé pour la fin de l'émission ce qui se passe en France, et notamment l'aide aux réfugiés dans les trois camps qui se trouvent entre Calais et la frontière belge. Le comité d'entraide et de mission dans le monde de la cathédrale épiscopale de Paris soutient l'action menée par Christian Hogar, qui agit pour le compte du Secours populaire, des Éclaireurs de France et de l'association Salam. Régane Duclosel, coordinatrice du projet Réfugiés de la cathédrale, nous décrit les conditions de vie calamiteuses dans les camps du nord de la France et l'aide apportée par la cathédrale.
À la cathédrale, à la rentrée, les membres ont été vraiment interpellés devant l'ampleur de la catastrophe humaine que représente la situation des réfugiés en France. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de plus concret. On est rentré en contact avec l'organisme centralisatrice de toutes les actions des ONG à Calais. On leur a demandé exactement ce dont ils ont besoin. On a organisé une première collecte avec l'église américaine de manteaux et de chaussures et de vêtements chauds pour les hommes. On a collecté 10 mètres cubes de vêtements. Ensuite, je suis allée moi-même sur place. Ils sont 5000 sur trois camps. Ils sont entassés dans des tentes, dans la boue, sans chauffage, sans eau. Il y a 400 douches pour 5000 personnes. Il y a 5 points d'eau qui ont été créés sur les 30 hectares de la jungle avec l'aide d'un don énorme de la Fédération française du football. Mais 5 points d'eau, c'est rien. C'est 5 points d'eau pour laver ses vêtements, pour tout. Ensuite, on a organisé une deuxième collecte de couvertures et de matériel, d'aménagement de base d'une vie à peu près normale. Et plusieurs petites congrégations aux États-Unis ont demandé ce qu'ils pourraient faire pour nous aider. On leur a demandé le plus simple, c'était de leur envoyer de l'argent. Et donc, entre l'aide de ces trois paroisses américaines et la générosité de nos paroissiens, on a pu collecter plus de 10 000 euros qui a permis l'achat d'un camping-car qui servira comme centre de soins de première nécessité. Ce camping-car change la vie à la fois des migrants et des personnes qui les aident. Pour la première fois, ils auront un endroit propre et de l'intimité et une possibilité d'avoir quelques soins corrects qui devraient transformer la vie à la fois des migrants et des personnes qui les servent.
Monseigneur Wallon, vous vous êtes rendu fin décembre avec le doyen de la cathédrale, Lucine Dallaire, et Regan du Clausel, que nous venons d'entendre, dans l'un des trois camps surnommés la jungle. Qu'en retenez-vous ?
Eh bien, j'en ai vu des camps de réfugiés, et c'est le pire que j'ai jamais vu de ma vie. C'est bien surnommé la jungle. Ce qui est frappant, c'est qu'en approchant le camp, d'abord, il y a 50 km de fil barbelé qui ont été exigés, installés et payés par le Royaume-Uni.
Pour les empêcher de franchir la Manche et de se rendre en Angleterre.
Tout à fait. Et c'est vraiment impressionnant, c'est des barrières, doubles barrières, et enfin extrêmement sophistiquées comme moyen de mettre les gens, de leur donner l'impossibilité de sortir de ce camp. Donc, ils se sont organisés, comme font tous les camps de réfugiés, mais je dirais que c'est plutôt un bidonville, au sens propre du mot. C'est un bidonville. Il y a un va-et-vient continuel de réfugiés. J'étais frappé qu'il y avait pas mal d'Iraniens, ainsi que des Syriens et des Irakiens. Et comme a dit Reagan, leurs moyens pour vivre sont extrêmement, extrêmement limités. Donc j'ai eu le privilège de bénir, au nom de Dieu, ce camping-car devenu clinique mobile. Nous avons aussi pu distribuer des cadeaux pour les enfants. C'était vraiment déchirant comme expérience. Et je dois dire que pour l'Union européenne, c'est une honte. C'est une honte. C'est la faillite complète de la politique pour accueillir les réfugiés. Parce que ces gens-là n'ont pas d'État. Ils sont arrivés là parce qu'ils voulaient passer en Angleterre, mais ils en ont été empêchés. Et donc maintenant, ils restent sans pouvoir bouger. Le gouvernement français leur a donné la possibilité d'aller ailleurs, dans un autre pays, pour demander l'asile. Mais c'est aussi contrevenant les lois, les conventions de Genève que nous connaissons bien avec l'action de l'AIMO. Il faut avoir un visa pour aller demander l'asile. Donc c'est une situation absolument désespérée et désespérante. Mais d'un autre côté, nous avons pu quand même faire un petit quelque chose. Et ces associations qui luttent sur le terrain font un travail remarquable.
Alors, vous avez parlé des demandeurs d'asile, on a parlé des réfugiés, on entend souvent parler des migrants. Jean-Michel Cadio, qu'est-ce qui distingue ces trois statuts, si je puis dire, ces trois appellations ?
Alors, les demandeurs d'asile, donc c'est ceux qui sont en France et qui cherchent un parcours administratif très compliqué avec au départ un visa valable mais qui n'est plus valide au bout de quelques temps ou qui sont rentrés d'une façon clandestine ou semi-clandestine. Les réfugiés, alors il y a effectivement des réfugiés, quand on dit les migrants, on pense souvent à des réfugiés économiques. Alors là, on essaie d'opposer les migrants économiques aux vrais réfugiés, ce qu'on considère comme les vrais réfugiés politiques, ceux qui fuient la guerre, les réfugiés de guerre, une autre notion. Ce sont de toute façon toujours des gens dans la grande souffrance Et il y a tout de même le réfugié qui a des droits, de quel qu'il soit. Alors bien sûr, il y a des abus sur le plan de la migration économique. Il y a peut-être des gens qui veulent gagner mieux leur vie. Et c'est effectivement, il faut faire une différence. Je voudrais dire un tout petit mot sur également, parmi ces réfugiés, ceux qui sont tout simplement dans la rue. Et à Paris, il y en a beaucoup et les gens l'ignorent. Il y a quelques mois, à la porte de Saint-Ouen, il y avait plusieurs centaines de familles syriennes, mais aussi il y avait des Soudanais, des Érythréens, mais surtout des Syriens qui étaient, mais sans aucun secours, sans aucune aide. Il a fallu une mobilisation extraordinaire de gens pour qu'en quelques semaines, plus d'un mois, une solution soit trouvée. Et des gens ont payé des nuits d'hôtel, ont installé des sanisettes, enfin, une mobilisation extraordinaire, mais le problème est réglé pour certaines familles, mais il en reste encore, en particulier des Afghans et des Iraniens qui sont dans des jardins près de la gare du Nord. Voilà, donc parmi eux, il y a des chrétiens d'ailleurs, pas beaucoup de convertis.
Oui, le problème est immense et je vous remercie de nous avoir fait partager votre quotidien de l'aide aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. En ce début d'année, je vais vous demander à chacun, avant de nous séparer, quel serait votre vœu pour 2016, Elish?
Moi, je souhaiterais qu'il y ait la paix dans la région, que tous ces peuples opprimés retrouvent leur maison et vivent en paix chez eux.
Et peut-être davantage de bénévoles pour vous aider dans votre association. Vous nous disiez tout à l'heure que vous nous donneriez les coordonnées. Donc, il y a un numéro que l'on peut appeler.
Nous pouvons être contactés par un numéro. C'est mon numéro personnel, 06 12 68 34 26.
On va répéter, s'il vous plaît.
06 12 68 34 26.
Et donc, à l'écoute, Elish Yacko. Jean-Michel, quel serait votre vœu pour 2016?
Bien que tous les réfugiés aient une espérance, au moins que leur situation soit prise en compte. Alors là, en France, il y a une ambiance, disons, politique qui est très très mauvaise pour eux, puisque c'est à qui il dira le plus de mal des étrangers en général et des réfugiés en particulier. Alors il y a créé beaucoup plus de fraternité, et il y a des bons signes pour ça. Et puis comme le dit Elish, la source c'est tout de même que la situation se stabilise dans ces pays, c'est-à-dire surtout l'Irak et la Syrie, que ce monstre qu'est l'État islamique soit vaincu par une coalition qui se met en place malgré tout et qui, j'espère, va obtenir des succès plus probants en 2016 pour que les chrétiens et les autres minorités rejoignent leur foyer.
Et Monseigneur Wallon, votre vœu pour 2016?
Eh bien, une des joies de participer dans l'action de l'AMO, c'est de découvrir que, malgré les proverbes qui sont contre, les Français sont très généreux. Et je souhaite que notre peuple soit encore plus généreux cette année. Aussi, comme mes collègues, j'espère qu'il y aura aussi une fin de ce Daesh, de cet État islamique, mais aussi que finalement, avec sagesse et avec concertation, des États réels puissent commencer à s'implanter en Irak, en Syrie et ailleurs, dans cette région meurtrie. Et je pense aussi à Israël et Palestine.
Merci et souhaitons que vos vœux soient exaucés.
Amen. Mais,
merci en tout cas de votre participation à tous les trois. Avant de nous quitter, quelques annonces. Du 11 au 16 janvier 2016 se tiendra à Londres la réunion des 38 primats de la communion anglicane. À l'ordre du jour, des questions difficiles, selon l'archevêque de Canterbury, qui touchent à la vie de la communion anglicane, mais affectent aussi l'ensemble de l'Église du Christ au plan mondial, à savoir les violences commises au nom de la religion, la protection des enfants et des personnes vulnérables, l'environnement, la sexualité humaine. La presse s'est fait l'écho de la déclaration de Columba promulguée par un groupe de travail réunissant des représentants de l'Église d'Angleterre et de l'Église presbytérienne d'Écosse. Cette déclaration prend acte du partenariat de longue date entre ces deux églises nationales du Royaume-Uni et jette les bases de futurs projets communs. Les travaux du groupe de travail seront examinés au prochain synode de l'Église d'Angleterre, le mois prochain, sachant que l'Église épiscopale d'Écosse, partenaire de l'Église d'Angleterre au sein de la communion anglicane, a émis de sérieuses réserves relatives au culte et à l'échange des ministres. L'archevêque de Canterbury a reçu des théologiens chiites au palais de Lambeth à l'issue de leurs 3 journées de dialogue avec des théologiens chrétiens à Oxford. Et ici, à Paris, Monseigneur Pierre Voillon, qui était avec nous pour l'émission, a été invité à la mosquée chiite par le cher Mohamed Hussein de Nadaj pour un échange sur le thème de l'amour de Dieu dans l'islam et le christianisme. Le cher Mohamed Hussein a demandé à se rendre à la cathédrale épiscopale de Paris, où il a été reçu le 3 janvier. Il a présenté ses condoléances pour les attentats du mois de novembre à Paris, condamnant fermement tous ceux qui commettent de telles atrocités. Annonce de concert à la cathédrale épiscopale de Paris, 23 avenue Georges V, Paris 8e. Les concerts du dimanche à 16h, le 10 janvier, le 17 janvier, le 24 janvier, le 31 janvier et le 7 février. Gospel Dream les 9 janvier, 23 janvier et 6 février à 20h30. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réécouter ou télécharger l'émission sur notre site fréquenceprotestante.com. Au revoir et à bientôt pour un prochain magazine anglican. Thank you.